ça ira ça comme un générique. Bonsoir à tous. Carmina Burana qui se termine pour nous annoncer en direct sur ici et maintenant.com. Je salue les internautes déjà nombreux. Ils attendent cette émission visiblement avec impatience suite aux annonces que nous avons faites. Notre invité étant ce soir Jean-Pierre Petit, directeur de recherche au CNRS, auteur de nombreux bouquins, et qui a été notre invité par le passé. La dernière remonte à 1995. Évidemment, on a connu 4 années d'interruption. Et voici le retour d'ici maintenant depuis un an. Et le retour tout prochain en librairie de Jean-Pierre Petit d'ici la rentrée, à l'automne. Et il nous annonce un bouquin assez hallucinant. Alors, ce soir, on va essayer d'éplucher tout cela. S'agit-il d'une extraordinaire paranoïa qui échappe à tout traitement médical, ou alors d'une réalité au-delà de ce qu'on peut imaginer dans le style « on nous cache tout, on nous dit rien », comme dit la chanson. C'est assez énorme, et nous saluons donc Jean-Pierre Petit. Nous aurons un autre invité téléphonique qui nous attend sur l'autre ligne, qui va participer dans un petit moment. Il s'agit de l'écrivain et chercheur Jean Paulion. Jean-Pierre Petit est-il là ? Bonsoir.
Bonsoir, je suis là, oui.
Installé confortablement ?
Très confortablement.
Bien. Bon, on s'embarque pour plusieurs heures, là.
Ouais, pas de problème.
Alors, paranoïa, réalité, on nous cache tout. Déjà, dans un bouquin précédent, Les Enfants du Diable, j'espère qu'on peut se tutoyer comme en privé, n'est-ce pas Jean-Pierre?
Absolument.
Dans un précédent bouquin, Les Enfants du Diable, il était question de technologies fracassantes et guerrières, montrant que derrière les politiques se profilent en permanence des militaires qui ne pensent évidemment sans aucun scrupule qu'à anéantir des populations entières. Et c'était un reportage dans principalement deux centres de haute technologie laser, n'est-ce pas?
Oui, oui, oui.
C'était déjà effrayant en soi.
Oui, oui. Ouais. Le livre était déjà assez angoissant. Bon.
Bien. Là, on nous annonce des choses étonnantes qui sont déjà sur le site internet jp.petit.com. Donc chaque auditeur peut déjà s'y plonger avant d'intervenir tout à l'heure en dialogue avec toi. Et tu poses ouvertement quelques questions auxquelles tu réponds par avance. La réponse est oui dans les premiers cas, à savoir, les gouvernements nous cachent-ils des choses importantes concernant le dossier OVNI ? La réponse est donc oui.
Ah, oui.
Certains gouvernements ont-ils l'intime conviction que les OVNI sont des machines d'origine extraterrestre ? La réponse est oui. Donc il ne s'agirait pas de, comme on l'a pensé au fil des années, il y a de ça longtemps, d'expérimentation secrète d'un pays sur l'autre, mais d'origine extraterrestre.
Mmh.
Oui, ça ne mouille pas beaucoup, Jean-Pierre Petit.
Ah, moi je peux me mouiller, ouais. Je peux te raconter oui. D'où ça sort.
Les Américains ont-ils récupéré des épaves d'OVNI à la fin des années 40? Ça c'est Roswell 47, c'est ça?
La réponse, oui.
La réponse est oui, d'origine extraterrestre. Mmh. Balayer l'histoire des ballons.
Ah oui, c'est ça.
D'accord. Il s'agissait d'une navette hypersonique. Des recherches ultra secrètes ont-elles été engagées dans certains pays directement liés au dossier OVNI? La réponse de Jean-Pierre Petit est oui, aux USA et en URSS, bien que les Russes aient abandonné faute de crédit.
Hein?
Et puis Jean-Pierre Petit nous annonce également qu'il est devenu courant d'expérimenter navigation sous-marine à quelques milliers de kilomètres heure, ce qui semble au-delà de l'entendement, puisque l'eau devient solide comme du béton passé 600 ou 800 km/h. Donc ça va nous amener à la magnéto-hydrodynamique à laquelle Jean-Pierre Petit a contribué depuis les années 75.
65.
65, mais dont on a parlé en 74-75, et on t'a vu aussi en télévision faire une petite démonstration à cette époque, temps X, non ?
Ah ouais. Alors, ce qui se passe, si tu veux, c'est que les Américains ont continué, l'AMHD, c'est comme ça que ça s'appelle. En France, on a tellement honte de ce qui s'est passé qu'on a donné un autre nom. Alors, ce qui fait que si les gens lisent les journaux, ils apprendront l'existence d'une nouvelle discipline qui s'appelle l'électro-aérodynamique. En fait, c'est l'AMHD. Seulement, on ne peut pas l'appeler comme ça, parce que sans ça, les gens feraient le lien en disant « on a foiré complètement le coup il y a 25 ans ». Donc il vaut mieux faire croire qu'il s'agit d'une discipline nouvelle. C'est pas une discipline nouvelle. Alors ce que j'ai appris moi en 2001, et j'en suis un petit peu tombé sur les fesses, c'est que les Américains, pendant 25 ans, avaient mené des recherches ultra secrètes, avaient développé des trucs absolument insensés, et ils avaient même réussi à faire croire aux Européens qu'ils avaient arrêté. Et non seulement ils ont réussi à faire croire aux Européens qu'ils avaient arrêté, ça s'appelle la désinformation, mais ils avaient même réussi à faire croire à leurs propres chercheurs civils. Parce que moi, je suis allé en 85, je crois, à un congrès de MHD à Chicago, et il y avait des chercheurs, c'était organisé par un type qui s'appelait Louis de Lafcaux, qui était là, qui était des transfuges de cet MHD civil qui cherchait à fabriquer de l'électricité. Et tout le monde était là en train de dire « Ah, on espère que ça repartira un jour, c'était le bon temps quand on avait de l'argent, alors que maintenant, c'est vraiment, ça va plus, ça va plus. » Alors qu'en 85, ça faisait 5 ans que la torpille américaine MHD fonctionnait à plus de 2000 km/h sous l'eau. C'est à se tenir les côtes de rire. Franchement, non, tu trouves pas?
À quelle vitesse es-tu?
À l'époque, elle faisait 2000 km/h, mais elle doit faire 3000 maintenant.
Oui.
Alors, le truc, c'est que dire des choses comme ça, on peut croire que c'est des paroles en l'air. Alors, évidemment, je peux donner quelques explications comme ça verbalement dans une émission de radio, mais comme je vais sortir ce livre, j'espère que mon éditeur traînera pas trop, qu'il sera assez vite disponible avant la fin de l'année de toute façon.
Là, c'est Albin Michel. Hein.
Et ça s'appelle « OVNI, le voile se déchire » et on a même trouvé un sous-titre qui sera « Des ovnis et des armes ». Et toute la base de l'argumentation, c'est des notes techniques. C'est d'expliquer comment ça marche. Hein, sans assourdir les gens de calcul, parce que pour ça j'ai mon site internet, je pourrais toujours donner tous les détails de scientifiques qui aux gens qui voudront, au niveau requis, pourront poser toutes les questions qu'ils veulent, mais il y a un dossier technique béton, c'est tout. Et ça repose sur des choses extrêmement simples, mais ça j'avais déjà commencé à expliquer ça à la fin des années 70, en 76-77, c'est que la MHD... Alors évidemment, les gens qui écoutent ça, ils n'ont peut-être jamais entendu parler de ça. C'est l'art et la manière d'agir sur un fluide avec un champ électromagnétique, avec un courant électrique, avec un aimant. Alors quand on achète ma bande dessinée chez Belin, je ne sais même pas si elle est encore en vente, ce qui fait qu'il vaudrait peut-être mieux l'acheter sous forme de CD. J'en vends 19 sur un CD, ça s'appelle Le Mur du Silence. Et à ce moment-là, avec un aimant, avec une pile de 4,5 V, avec deux bouts de cuivre, etc., ben on arrive à faire aspirer de l'eau comme ça. Donc on s'aperçoit qu'on peut aspirer de la flotte avec ça. Alors ce qui est assez amusant, c'est que les concepts de base de tout ça, je les ai fait sortir, j'ai pas été le seul à inventer ça, on n'est pas le seul au monde à inventer des choses. Mais disons que en 75-76, j'ai inventé plein de trucs. Et à l'époque, j'étais peut-être le type le plus en pointe, sinon un des types le plus en pointe au monde dans ce domaine-là. Mais comme j'avais pas de moyens, donc la MHD, bah, c'était une cuvette avec de l'eau salée, avec des aimants qui faisaient 900 gauss, avec des accus et des choses comme ça. Et je me rappelle à l'époque, dans cette espèce de cave qui servait de laboratoire, j'ai eu la visite d'officiers, de militaires qui ont regardé ça gravement. Et c'est avec 25 ans de retard que je réalise que les gens n'ont pas d'imagination. Mais d'imagination au sens où ils ne sont pas capables d'imaginer. Quand on leur dit, vous voyez ce petit machin qui navigue là, parce que je me rappelle à l'époque à la télé, j'ai fait naviguer un bateau MHD avec des fils qui lui ont mis du courant électrique, puis il naviguait comme ça, il devait avoir quelques grammes de poussée, il avançait comme une libellule à la surface de l'eau. Et je disais à ces gens-là, mais si au lieu d'avoir 1000 gauss, on en avait 100 000, et si au lieu d'avoir tant d'ampères, on en avait tant, eh bien le machin, il reste planté dans le mur. Et à ce moment-là, ces militaires me regardaient comme ça, avec les yeux ronds, de quoi ils parlent. Et même, il y a une chose extraordinaire. Quand j'ai sorti le Mur du Silence, c'est une bande dessinée que j'ai sortie en 83. Et à l'époque, je désespérais tellement d'être compris que je m'étais dit, il faut que je fasse une bande dessinée qui soit compréhensible même par un ministre. Hein? Donc j'avais essayé d'être le plus clair possible, et c'était tombé en 83 entre les mains d'un officier marinier qui était à Toulon et qui s'occupait de mettre au point les futurs sous-marins nucléaires français. Alors à un moment, dans la bande dessinée, je ne sais plus quelle page c'est parce que je ne l'ai pas sous le nez, il est tombé sur une expérience où Maurice Vitton et moi, on avait réussi à faire disparaître le sillage turbulent derrière un cylindre. Vous savez, quand on met un cylindre dans l'eau, ben derrière, il y a l'eau qui fait des tourbillons. Ben, avec la MHD, on agit sur les filets d'eau et hop, on réussit à les recoller. Ça, il avait vu ça, puis il s'est dit, mais il y a des objets cylindriques qu'on sort dans l'eau, c'est les périscopes. Et derrière les périscopes, ça fait du bruit, Et le bruit, ça, c'est embêtant parce que ça fait que les sous-marins se font repérer. Alors nous voilà un jour, mon ami Elio Flesia et moi-même, Elio s'occupait des rapports entre le CNRS et le monde extérieur, et moi, on est reçu chez cet officier marinier qui demande gravement si je confirme bien qu'on pourrait supprimer le bruit derrière un périscope. Alors j'ai dit oui, aucun problème. Alors du coup, il est tout content, Elio se met à sourire, on s'est dit peut-être les choses vont se décoincer. Et à ce moment-là, il a cette question, il me dit, il y a une deuxième source de bruit dans les sous-marins, c'est pas seulement le périscope, c'est les hélices. Est-ce que vous auriez une solution pour réduire le bruit des hélices? Et j'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Ah bon, laquelle? Ben, vous les enlevez, vous les remplacez par des électrodes. Et si vous regardez le mur du silence, ma bande dessinée, il y a tout le système qui permet à un sous-marin de naviguer en agissant sur l'eau qui l'entoure avec des électrodes et des électro-aimants, etc., etc. Et je lui ai expliqué qu'avec ça, on pouvait aller à 400 ou 500 km/h. J'étais loin du compte parce qu'on peut aller beaucoup plus vite. Et à ce moment-là, j'ai vu cet homme qui s'est tassé dans son siège et qui m'a expliqué qu'ils avaient déjà tout leur projet de sous-marin qui était arrêté pour les 20 ou 30 ans à venir et qu'on ne pouvait absolument rien changer. Alors on est parti, on a foiré le coup complètement. Elio m'a ramené à Marseille, c'était complètement raté. Alors ce qui était extraordinaire, c'est quand on est allé voir ce type-là, c'était en 83, la torpille américaine marchait déjà. Alors comment est-ce qu'elle marche, cette bonçon de torpille? On la verra décrite en long, en large et en travers dans le livre. D'abord, il y a une chose, c'est que les torpilles n'utilisent plus les hélices. Mais ça fait très longtemps. Il n'y a que les Français qui utilisent les hélices. Ils sont tellement attachés aux hélices, même que vous avez vu que quelquefois, c'est les hélices qui se détachent. Mais ça, c'est un autre problème. Alors, on enlève les hélices des torpilles et on les remplace par des propulseurs fusées. Parce que les fusées, ça marche très bien sous l'eau. Fusée à poudre, par exemple. Moi, j'en parle en connaissance de cause, parce que j'étais ingénieur de fusée à poudre en 1965-66 à la Société d'études de la propulsion par réaction. Donc, première chose, on a une fusée qui propulse la torpille. Mais, comme disait Didier tout à l'heure, quand on se déplace dans l'eau à grande vitesse, il y a un problème de frottement. Et ça, on s'en rend très bien compte. Vous prenez une canne, puis vous agitez la canne dans l'air. Bon, ben, apparemment, il n'y a pas beaucoup de résistance. Puis vous faites la même chose dans l'eau, regardez un peu la différence, l'eau c'est plus dense, il y a un coefficient de frottement plus important, bref, on a beaucoup de mal à se déplacer vite dans l'eau. Et on ne se déplace pas vite justement à cause de cette friction de l'objet sur l'eau. Et là, MHD, elle permet de supprimer la friction. Parce que l'objet qui se déplace dans l'eau, au lieu de se déplacer de manière passive, il se déplace de manière active, un peu comme les paramécies qui ont des poils comme ça qui leur permettent d'agir sur l'eau, la torpille américaine, elle accélère l'eau autour d'elle. Donc elle n'a pas de traînée, elle a une traînée négative. Alors il se trouve que quand je suis allé en Angleterre à un congrès sur la propulsion avancée, j'étais là depuis 5-10 minutes, et je vois arriver un gars d'une soixantaine d'années qui me dit « Vous êtes le professeur Petit ?» Je dis « Oui ». Oh, je suis ravi de faire votre connaissance, parce que la première fois que j'ai entendu parler de vous, c'était en 76, quand on m'a donné vos notes au compte-rendu de l'Académie des sciences sur la MHD à analyser. Hein, je dis, bon, ça fait quand même un quart de siècle. Hein, et j'ai dit, mais comment est-ce que vous connaissez tout ça? Il me dit, c'est moi qui ai mis au point la torpille MHD américaine. Alors on a commencé à parler un petit peu de tout ça. Moi, je subodorais qu'il y avait des choses de ce genre, parce que on a des informations par les Russes. Pourquoi est-ce qu'on les a par les Russes? Parce que la science russe se casse les figures, la technologie russe se casse les figures, ils n'ont plus d'argent. Alors comme ils n'ont plus d'argent, ils parlent. Donc ils racontent des tas de choses que sans ça, on n'aurait peut-être pas connu. Donc on avait déjà des informations de ce genre. Alors en France, pour tout vous dire, on a des torpilles à hélices. On en a deux types. On en a qui vont à 100 km/h, qui marchent avec des accus, avec des piles, plutôt des piles dans lesquelles on met un liquide. Et puis on en a qui atteignent le 120 km/h, qui ont une turbine à gaz et qui fonctionnent à ce moment-là avec un carburant. Ces torpilles sont tout à fait dans le style des torpilles qui équipaient le sous-marin russe, le Kursk, qui justement a explosé, parce que ce mélange carburant-comburant est assez instable et ça a explosé dans le sous-marin. Alors, ce qui fait que les Français prudents préfèrent ne pas équiper leur sous-marin de chasse avec ces torpilles-là, mais ils les lancent à partir d'hélicoptères. Moi, j'ai su tout ça parce qu'un jour, il y a un monsieur qui s'occupe de torpilles qui m'a raconté un petit peu tout ça, quoi. Mais toujours est-il qu'on a des torpilles à hélice et puis que c'est 100 ou 120 km/h. Et quand je me suis trouvé avec ce spécialiste américain, il suffit de quelques phrases pour se rendre compte que le type raconte pas de blagues, qu'il est bien bien immergé dans cette histoire-là. Donc moi, j'ai découvert, en parlant avec ce type-là, j'ai découvert en 2001, donc 25 ans plus tard, quoi, que les Américains avaient travaillé de manière extrêmement intensive sur ces choses-là. Parce qu'il ne faut pas croire qu'une torpille comme ça, ça se développe en 2 ans et demi. Hein, c'est 20 ans de travail, un truc pareil. Il faut faire marcher une fusée à poudre dans des profondeurs qui vont de la surface jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Ensuite, cette fusée à poudre, elle sert de générateur MHD. C'est elle qui va fabriquer l'électricité qui sert à aspirer la flotte qui est devant. Enfin, c'est pas un truc simple. Hein. C'est pas parce que les états-majors français vont découvrir tout d'un coup qu'il y a des torpilles MHD et que c'est la grande mode qu'ils vont se mettre à pouvoir faire quoi que ce soit. Je vous le dis, les militaires français et européens ont 25 ans de retard sur les Américains, totalement irrattrapables. Moi, ça m'amuse. C'est un petit peu une sorte de revanche, parce que comme personne ne m'a jamais écouté pendant 25 ans, maintenant, j'ai plus qu'à me taper sur les côtes. Ça me fait une belle jambe, mais c'est comme ça. Alors donc, quand j'étais avec ce gars en Angleterre, on s'est mis à parler torpille MHD, c'était très intéressant. Puis je lui ai dit, mais à quelle vitesse ça va, ce truc-là? On fait quoi? On fait 400-500 km/h. Et il m'a dit, oh, much more, beaucoup plus. Beaucoup plus. Combien ça fait, c'est pas facile à évoluer. Ben, il m'a dit en 80 on faisait 2000 km/h. Ah, bon, ben, en 2001, je sais pas combien il faisait, mais il doit être à 3000 ou quelque chose comme ça. La vitesse du son dans l'eau, c'est 4005. Alors, de toute façon, c'est subsonique. Mais l'existence de ces torpilles, ça c'est une certitude, il n'y a pas de problème, ça change totalement la stratégie. Parce que en matière militaire, le vecteur numéro un, c'est le sous-marin en tant que plateforme de tir. Hein. Et les sous-marins se suivent et ne se ressemblent pas. Mais les sous-marins russes suivent les sous-marins américains, qui suivent les sous-marins chinois, qui ceci, qui cela, tout le monde sait où est tout le monde. Ils passent leur temps à se suivre comme ça. Hein. Mais avec une torpille MHD, ça veut dire que le sous-marin ennemi, il est à 5 secondes de tir. Il n'a même pas le temps d'ouvrir ses trappes. Alors je veux dire que si on est encore à l'époque où on fabrique les sous-marins nucléaires avec l'encens tel qu'on les a maintenant, moi d'ailleurs je pense qu'on devrait les reconvertir pour faire des voyages touristiques pour le club Méditerranée par exemple. On pourrait emmener les gens se promener sous l'eau, puis éventuellement, moyennant une somme un peu plus importante, on pourrait envoyer aux gens de faire un petit tour dans l'espace. C'est à peu près à ça que ça sert maintenant. Vous saviez qu'on avait construit le plateau d'Albion. Le plateau d'Albion, c'était la force de frappe française. Et puis, il y avait un poste de tir souterrain qui était à 500 mètres, qui communiquait à des tas de silos. Et on ne l'a jamais fini. Et les gens peuvent se dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'a jamais fini Albion? Ben, on ne l'a jamais fini parce que si on l'avait fini, il aurait été périmé avant de commencer. Pourquoi? Parce que les missiles russes, comme les missiles américains, avaient 80 mètres de portée et qu'avec un seul missile à tête multiple, on flanquait tout Albion en l'air. Alors, c'était pas la peine de foutre de l'argent en l'air. Et moi, je vous dis, les sous-marins français, lance-engins, sont totalement obsolètes. Ils peuvent être détruits en quelques secondes par ces torpilles. Bon, je ne sais pas si les sous-mariniers français le savent. Ils s'en doutent maintenant, depuis le voyage en Angleterre, parce qu'avant, ils ne s'en doutaient pas du tout. Mais maintenant, ça va commencer à se savoir, parce que j'en ai quand même pas parlé autour de moi. Et quand le livre sortira, il va être acheté en un certain nombre d'exemplaires par la DGA, qui est la Délégation Générale de l'Armement. Puis ils vont regarder un petit peu ça. Il y en a même des amiraux, des généraux qui vont dire « Dites-moi, la magnéto-hydraulique, c'est quoi déjà ?» Alors, c'est extraordinaire, c'est qu'on n'a plus de spécialistes en France. Et là, ça nous ramène à quelque chose de fabuleux. Moi, je leur tire mon chapeau, ces Américains. Ils ont décidé, au début des années 70, d'arrêter complètement toute diffusion d'informations MHD, et ils ont fait croire à tout le monde que ça se cassait la gueule, qu'on abandonnait. Parce que c'est pas difficile, quand il y a une activité technico-scientifique dans un pays comme l'Amérique, qu'est-ce qu'on trouve? On a des PhD, c'est-à-dire l'équivalent de thèse de doctorat, on a des enseignements, on a des livres, on a des contrats, même s'il y a du secret défense à droite et à gauche, il y a quand même des choses qui font un petit peu surface. Et bien pendant 25 ans, rien n'a pointé. Le seul indice que nous avons correspond à un voyage que j'ai fait aux États-Unis, je crois que ça date en 86. Je suis allé à Berkeley, j'étais invité par mon ami Oppenheim à faire une conférence devant les étudiants, et j'ai parlé MHD devant un parterre de jeunes étudiants, première ou deuxième année, équivalent à la licence de physique, et Oppenheim est un homme assez âgé, mais était un beaucoup d'humour, il est très gentil, c'est un très vieil ami. Et à un moment, Oppenheim s'adresse à un monsieur qui était au fond de la salle, qui s'appelait le professeur Kunkel, que je n'avais pas repéré du tout. Et Oppenheim, goguenard, dit à Kunkel, professeur Kunkel, je vous vois vous tenir très mal au fond de la salle, vous vous agitez sans cesse, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, Kunkel prend la parole, il dit, écoutez, je réagis parce que je viens d'entendre ce Français depuis une demi-heure, trois quarts d'heure, qui n'arrête pas de nous parler de MHD, de machins qui se déplacent dans l'air, qui se déplacent dans l'eau, qui font ceci, qui font tout cela. Et il se trouve que aux États-Unis, ce sont des travaux qui sont actuellement en cours, mais qui correspondent au plus haut niveau de secret, et j'ai du mal à avaler que ce soit raconté en clair devant des étudiants de première année de licence de physique. Et il a eu cette phrase, il a dit, c'est tellement secret que je ne suis même pas autorisé à vous dire de quoi il s'agit. Et c'est vrai que quand j'ai vu mes homologues américains dans ce congrès en Angleterre, ils étaient morts de rire parce que leur secret militaire se trouve depuis 83 dans une bande dessinée qui traîne partout. C'est extraordinaire. Et finalement, ce qui protège les gens, c'est le scepticisme. Les Français n'y ont pas cru, c'est tout. Ils n'y ont pas cru et ils vont le payer très, très, très cher. Parce qu'il n'y a pas que les torpilles. Hein. Déjà, les torpilles, ça fait une chose, c'est que ça attaque les sous-marins et que les sous-marins sont complètement sans défense face à des engins pareils. Un machin qui vous arrive dessus à 3000 km/h, qu'est-ce que vous voulez faire? Rien. Bon. Maintenant, si les torpilles vont à 3000 km/h, les sous-marins vont vite aussi. Or nous, on a des sous-marins qui font du 80-90 km/h, des choses comme le Kursk avec deux réacteurs nucléaires, plein pot, ils arrivent à accélérer à 120. C'est d'ailleurs une chose très amusante parce que les sous-marins français vont aussi vite, les torpilles françaises vont aussi vite que les sous-marins russes. Ce qui fait que si jamais on devait faire une guerre, il faudrait prendre les sous-marins de face, parce que si on leur tire derrière, ils risquent de foutre le camp plus vite que les torpilles. Ou alors à ce moment-là, on leur dit, écoute, ne bouge pas, je te tire dessus, mais ne fiche pas le corps, sinon je vais te louper. C'est extraordinaire. J'ai jamais imaginé un monde stratégique où l'arme aille moins vite que l'objet qu'on vise. C'est le cas. Bon, alors, s'il agit de torpilles...
Jean-Pierre Petit, avant de passer aux avions... Si on ouvrait cette parenthèse donc de la technologie OVNI, ça nous amène à faire un rappel sur le message UMIT.
Ah, nécessairement. Alors, tu veux qu'on parle des...
Nécessairement, oui.
On va parler du message UMIT. Bon, alors, parce que c'est un sujet très vaste, moi je vais dans la direction que tu veux, on reprendra ça tout à l'heure. Hein. Bon, les gens qui m'entendent actuellement, ils ont peut-être lu un petit peu mes livres, ils savent que j'ai publié des bouquins sur la Firumo, et puis finalement, ça s'est arrêté en 95. Hein. En 95, j'ai dû publier Le mystère des humides, puis après je me suis tué. Et je me suis tué, pourquoi? Parce que j'ai participé à des émissions de télévision qui m'ont tellement ennuyé, j'étais face à des gens tellement emmerdants, que j'ai baissé les bras, je me suis dit, j'en ai marre, quoi. C'est pas la peine, ça sert à rien. Alors, j'ai continué à faire de l'astrophysique et des choses de ce genre, mais je me suis pas exprimé dans ce domaine-là, puis j'ai pensé aussi que ça froissait mes collègues. Or, en fait, mes chers collègues scientifiques, qu'on les froisse ou pas, ça fait exactement la même chose. Il y a une chose dans le monde scientifique, c'est que lorsque on fait un pet de travers, lorsque on dit des choses qui ne sont pas convenables, on encourt une excommunication irréversible. Le jour où j'ai donné une interview en 1976 à la télévision en parlant OVNI, je me suis frappé au fer rouge pour le restant de mes jours. J'ai mis du temps à le comprendre. Maintenant, je le sais, il y a un certain nombre de gens comme ça qui sont dans cette situation, comme mon ami Benveniste. Nous sommes excommuniés, mais on vit très bien excommuniés. Alors simplement ce que je voulais dire, je vais rassurer mes lecteurs, je ne change strictement rien à ce que j'ai dit. Ce dossier Oumo, il est fascinant, il est passionnant, il est toujours aussi riche. Vous allez attendre tout à l'heure un personnage qui s'exprime sous le pseudonyme de Jean-Paul Lyon et qui a fait un travail extraordinaire. Et moi je suis content parce que j'ai fait beaucoup de travail dans ce domaine-là. C'est difficile de tirer des perles de cet énorme tas de, pas de fumier, mais de paille, quoi. Disons, c'est très déconcertant, ces textes-là. Et pour arriver à sortir quelque chose de temps en temps, il faut beaucoup travailler. Et jusqu'ici, on était très peu nombreux. Avec une équipe de copains, on a bossé pendant 25 ans pour faire un truc de ce genre. Tout d'un coup, on voit arriver un CD-ROM, envoyé par un type, Et j'avoue qu'à l'époque, je crois que j'étais en train de préparer un congrès scientifique, j'avais guère l'esprit à me mettre là-dedans. Et puis quelques mois plus tard, je vais chez Raphaël Farriols, qui est en Espagne, qui est au cœur de cette affaire humide. Puis comme j'avais 4-5 jours tranquilles, lui, il avait imprimé ses pages, je me mets à les lire, et je découvre tout d'un coup qu'un gars a passé 5000 heures de sa vie, il a passé 5 ans de travail, il a bossé comme un lion pour faire un truc pareil, et il a réussi à comprendre la structure du langage qui allait dans ces textes. Et alors là, c'est quelque chose de fantastique, parce que ces textes humides, moi je l'ai toujours dit, en astrophysique, il y a des choses très en avance. En cosmologie, il y a des choses très en avance. En mathématiques, il semble qu'il y a des choses très en avance. En mécanique des fluides, c'est très stimulant. C'est une machine à penser fantastique. Bon. Alors il y a des gens qui s'expriment en disant que non, c'est une manipulation du KGB, non. Ça emmerde tout le monde. En particulier, cette affaire Roubaud, il y a des gens qu'elle dérange au plus haut point, c'est les ufologues. Ils ont horreur de ça, ils sont complètement allergiques. Je ne citerai pas de nom parce que c'est pas la peine, mais enfin bon, on a des grandes tirades de gens qui prendraient le piré pour un homme et qui expriment, qui donnent leur opinion, à mon avis, j'ai l'impression que, etc., etc. Alors dans ces textes, il y avait des mots, avec, je sais plus combien, Paul Lyon me le dira, une vingtaine, 20 ou 21 caractères, des caractères non accentués, empruntés à la langue espagnole, un A, un I, un O, un M, un Y, etc. Et avec ça, on fabriquait des IBOZU, des XI, des XE, etc., etc. Alors, ça se présentait comme une sorte de pierre de Rosette, parce que dans la pierre de Rosette, vous vous rappelez que Rosette, en accompagnant Napoléon là, pendant sa campagne, ils étaient tombés sur un caillou, et sur ce caillou, il y avait un texte en hiéroglyphe, et puis en dessous, il y avait le texte en grec, et puis je crois dans une autre langue. Donc il y avait l'équivalent, que ça permettait de trouver cette traduction. Et là, ces éléments-là se présentent exactement comme la pierre de Rosette, puisque à longueur de page, ces textes disent cet appareil qui nous sert à faire ci, à faire ça, et que nous appelons bzag, zouk, zig, zouk, zag, zo, et il y a toujours ces phonèmes comme ça qui sont emmerdants à périr, au point que quand j'avais créé cette association de Gesto, que j'avais diffusé des textes, j'avais enlevé ces mots parce que je trouvais que ça agaçait le lecteur plus qu'autre chose. Ceci étant, il y en a, je crois, 1350 là-dedans. C'est énorme. Donc, c'est du matériel, et je suis toujours parti de l'idée que s'il y avait des choses précises, c'est que c'était fait pour servir. Par exemple, en biologie, il y a des données précises. Moi, je suis pas biologiste, je sais pas les exploiter. Mais je pense que si on indique que telle ou telle fréquence ont une importance capitale en biologie, c'est que ça doit avoir une raison. Mais moi, je sais pas exploiter ça. Et là, s'il y avait 1350 mots dans ce truc-là, c'était vraisemblablement qu'on devait pouvoir en faire quelque chose. Alors des gens ont essayé de se plonger là-dedans, de façon très méritoire, ça a duré 25 ans, quoi. Je veux dire qu'ils ont comparé ça aux Chinois, aux Thaïs, aux ceci, aux cela, aux ceci, aux cela. Ça n'a pas donné grand-chose, parce que finalement, imaginez que vous êtes extraterrestre et vous écrivez, mais dans votre écriture, on trouvera forcément des ronds, on trouvera des carrés, on trouvera des barres, parce que ça se trouve partout, quoi. Et puis, si ces gens-là parlent, ils vont aussi utiliser des morphèmes, des sons qu'on va trouver aussi chez nous. Faut pas s'attendre à ce que les gens parlent avec des grâces en prononçant des mots comme des grincements de porte. Peut-être que ça, il y a des planètes où ça se produit, mais d'autres pas. Donc il fallait se plonger dans cette prose. Et Paul Lyon l'a fait. Et il a écrit un bouquin. Tout à l'heure, Didier vous donnera les coordonnées de ce livre, qui est vendu par correspondance par un éditeur suisse qui s'appelle les éditions Aldan. Et quand j'étais chez Farriols, j'avais pas jusque-là eu le temps de lire ces trucs-là. J'ai commencé à lire, et une fois que je me suis mis là-dedans, je ne pouvais plus m'en décoller, je trouvais ça formidable.
Jean-Pierre Petit.
Ce qui est formidable, c'est la façon dont, à la manière d'un Sherlock Holmes, il a commencé à mordre là-dedans. Et récemment, Paul Lyon a eu une sorte d'altercation avec un ufologue qu'on ne citera pas non plus, ça n'a aucun intérêt, et l'ufologue disait, mais comment se fait-il que vous n'ayez pas soumis votre travail à des experts en linguistique ? Et Paul Lyon, lui, quand il a attaqué ce truc-là, il s'est dit, peut-être que la linguistique telle qu'elle existe actuellement ne va pas servir. Et effectivement, il est parti de zéro. Cette construction est extraordinaire. Il en parlera mieux que moi tout à l'heure, puisqu'il va avoir la parole et qu'il m'écoute, il m'entend parler. Cette langue, elle fonctionne comme une table de Mendeleïev. C'est la table de Mendeleïev. Il y a une centaine d'éléments rangés qui sont les atomes fondamentaux. Et puis, avec ces atomes, quand on les met ensemble, on fait des molécules. Et puis ces molécules, elles ont des fonctionnalités. On fait de l'acide chlorhydrique, on fait du sulfate de soude, des tas de choses comme ça. Bon, tout ça avec une centaine d'atomes. Et puis finalement, il y en a 25 ou 30 qui sont les fondamentaux avec lesquels on fait pratiquement toute la chimie, quoi.
Il est nécessaire toutefois de faire un retour en arrière et de parler du groupe espagnol. Ceux qui n'ont pas suivi le chapitre précédent, tout de même. Donc, il y a environ 35 ans, en 65 ou 66, une mission UMIT, donc de la planète Humo, située à 15 années-lumière, s'est posée en Provence, et ensuite a essaimé vers l'Espagne, a trouvé une dactylo par petites annonces, et a commencé à émettre des textes à haute teneur scientifique, semble-t-il. Et ce sont ces textes donc, que Pollion a étudiés, qui donnent les clés d'un langage. Enfin, qui propose un langage dont il a, semble-t-il, trouvé les clés. Mais la communauté scientifique a été frappée et surtout en France, Jean-Pierre Petit, avec lequel nous dialoguons en ce moment, a été frappé par la pertinence de ces propositions scientifiques. Les ufologues, eux, s'y sont intéressés, puis s'en sont détournés. Mais il faut dire aussi que le groupe espagnol a, semble-t-il, tourné lui-même en rond sur le fait de... L'origine, est-ce finalement un canular? Il semblerait qu'il y ait même un aveu de l'un d'eux disant, c'est Selma je crois, reconnaissant que c'était en fait une intelligence nord-américaine qui lui avait inspiré tout le plan tenu comme ça en haleine pendant 35 ans.
Il faut connaître les véritables ficelles de l'histoire parce qu'elles sont extraordinaires. Au moment des aveux, des soi-disant aveux de Selma. Si vous voulez, dans toute cette histoire d'OVNI, il y a deux courants qui jouent. Il y a l'information et il y a la désinformation. Et dans notre monde moderne, les gens qui ne comprennent pas le sens de ce mot des informations, ils perdent complètement le sens de l'histoire. Et la désinformation, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que ça permet de détourner des gens d'un sujet pendant un quart de siècle. On ne peut pas garder un secret pendant un quart de siècle. Par contre, on peut rendre un sujet absolument révulsif pendant un quart de siècle. Et la manip SESMA est une manip de désinformation. J'en suis le témoin oculaire. C'est-à-dire qu'au moment où Sesma a commencé à raconter qu'il était l'auteur des textes, j'étais chez Farriols. Farriols était au téléphone. Il y avait le haut-parleur, donc on entendait la conversation entre Sesma et Farriols. Farriols était furibard, parce que ça faisait quand même 25 ou 30 ans qu'ils étaient dans cette affaire-là. Et à un moment, Sesma lui a dit « Ne te fâche pas, Raphaël. Je dis ça, c'est parce que c'est les humides qui me l'ont demandé. » C'est mignon, quoi. Donc, si vous voulez, la démarche de Sesma, d'abord, le fait qu'il ait pu techniquement faire ce genre de choses-là, c'est de la foutaise. Alors maintenant, il invoque un groupe nord-américain. Je dirais à la limite, qu'est-ce qu'on s'en fout? Moi, personnellement, je m'en fous éperdument. Et Pollion, c'est pareil. Je veux dire, l'origine extraterrestre de ces textes, c'est une question capitale. Mais ce qui est très important, est-ce qu'ils fonctionnent? Est-ce qu'ils sont fonctionnels? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Et ce qui ressort du travail de Pollion, c'est un langage qui est dénué de mots-objets, qui constitue probablement une des clés de l'intelligence artificielle, ou en tout cas une des clés du dialogue homme-machine. C'est une nouveauté linguistique fantastique.
Et alors ça, il est temps de le faire intervenir, n'est-ce pas?
Pardon?
Là il est donc temps de le faire intervenir.
Oui.
C'est cher Jean-Pollion.
Oui. Allons-y.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre.
Salut Jean.
Oui, je vous écoutais là, juste une toute petite chose, vous parliez de Jordan Peña, hein, c'est lui qui a fait...
Ah, c'est Peña, bien sûr.
C'est Peña, hein.
Peña.
Bon, non, c'est vrai que cette langue est, très très surprenante pour nous et ouvre des horizons extraordinaires. Jean-Pierre a parlé d'une centaine de briques comme celles qu'il pouvait y avoir dans la table de Mendeleïev. Dans cette langue, il n'y a que 18 éléments, 18 bases seulement. Alors que nous, on se balade avec des alphabets, des grammaires et tout ça, et là, il y a seulement 18 bases et 4 façons de les assembler. À la limite, on pourrait presque faire quelque chose, une image avec l'ADN, un petit peu, où on a des répétitions de code, de base. Et c'est un petit peu la même chose, hein, le même genre de logique. Mais c'est formidable parce qu'on peut évoquer vraiment tout ce qu'on veut avec un esprit fonctionnel. Alors, c'est pas fait pour faire de la poésie. Hein, c'est pas fait pour raconter des petites histoires ou bien enluminer les choses. Non, c'est fait pour dire ce qui est, c'est fait pour dire ce qui va, le rôle de chaque chose, et ainsi de suite. C'est comme ça, par exemple, moi, ce que j'ai, un des premiers mots, entre guillemets, que j'ai pu comprendre, c'était pour expliquer que de l'eau dans cette langue-là, enfin, tout liquide dans cette langue-là se dit quelque chose qui se manifeste à plat, horizontalement. Hein? Et donc, voilà, ce sont des choses qui sont... Mais c'est vrai que c'est une ouverture, une grande ouverture.
Jean, j'ai une question à vous poser. J'ai une question à vous poser. Depuis que votre livre commence à être un petit peu en circulation, bon, j'espère qu'il sera diffusé plus largement, est-ce que vous avez eu des réactions de linguistes, de gens réellement calés, non?
Alors, pour l'instant, j'ai eu un dialogue avec quelqu'un qui a des connaissances linguistiques, mais bon, on sent qu'ils n'ont pas la perception du recul nécessaire et on continue à analyser cette langue avec nos outils et notre façon, et on cherche une grammaire et on cherche des choses et on cherche des liens entre les phonèmes qui n'ont absolument a priori pas raison d'être. Hein? Moi, je suis parti de l'idée que c'était un monde complètement différent d'une autre, a priori. Mais lequel, j'en sais rien, ça m'est égal à la limite, mais simplement qui se dit différent, et donc qu'il n'y a pas de raison que notre marteau qui sert à enfoncer des clous puisse servir à extraire quelque chose de cette langue, hein. Donc, et voilà pourquoi. Alors aujourd'hui, je n'ai pas de réaction de linguistes, sauf des bons linguistes qui connaissent surtout les langues anciennes, enfin au moins c'est ça que j'ai eu comme contact, mais sans le recul par rapport à l'existence d'une grammaire ou non, et de principes liés aux langues terrestres. Quoi.
Et Jean, il y a une chose, je me trompe pas en disant que pratiquement cette langue est dénuée de mots-objets.
Ah ben, il ne peut pas y en avoir.
Il ne peut pas y en avoir. Faut expliquer à l'auditeur ce que c'est qu'un mot-objet. Faites-le.
Finalement, c'est tout simple. Un mot objet, c'est un mot qui désigne un objet. Même une idée. Une idée peut être ramenée à des combinaisons d'objets.
Chapeau, c'est un mot objet.
Voilà. Chapeau est un mot objet. Couvre-chef est un mot moins objet. Et si le chef est en la tête, on désigne la tête comme ce qui gère le corps, on devrait dire un couvre qui gère le corps. Et c'est comme ça pratiquement qu'est construite toute cette langue. C'est-à-dire qu'à chaque fois... Alors un mot objet, justement, l'eau, c'est un objet, et un objet dont on se sert, elle coule, on s'en sert pour se laver, on s'en sert pour boire. Le même mot sert à désigner un certain nombre de choses.
Alors, la question Jean a posée, c'est que il n'existe pas sur Terre de langue qui n'ont pas de mots objets.
Ah oui, c'est même une conséquence fondamentale de notre logique, la logique aristotélicienne, la logique du binaire, du tiers exclu, la logique qui dit que on ne peut pas être et ne pas être. Eh bien ça, c'est forcément des mots objets. Nous désignons tout par ce que nous pouvons toucher ou évoquer dans la tête de l'interlocuteur. Il faut que tout soit palpable comme un objet.
Donc autrement dit, pour un linguiste, la nouveauté, c'est nous vous présentons une langue qui n'a pas de mot-objet.
Absolument.
En soi, ça doit susciter un étonnement.
Ça devrait. Et pour l'instant, la réaction, c'est impossible. On me répond, ça peut pas être une langue parce qu'il faut des mots-objets dans une langue.
Ça, c'est génial.
Ah oui, c'est ce qu'on me répond. Hein.
Ah oui.
Oui, tout à fait. On m'a demandé de traduire en humite qu'il fallait chauffer l'eau du bocal d'un poisson rouge, de poisson rouge. Hein? Et j'ai traduit en disant qu'il fallait leur maintenir un équilibre vital, en disant que les poissons rouges, c'était des êtres vivants prisonniers, des êtres vivants dans l'eau prisonniers. Eh bien, on m'a reproché de pas préciser que c'était rouge.
Ah oui, non, mais... J'ai rien compris.
Mais sinon, il y a très peu de briques, et avec ça, on peut construire vraiment toutes les idées, tous les concepts, y compris des choses très très sophistiquées qu'il y a dans ces textes.
Alors, il n'y a pas un linguiste qui s'est étonné de ce genre de choses?
Pas encore. Pas encore.
Faut espérer, attendons.
Oui, 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 tout à fait, parce qu'il y a justement des ufologues connus qui ont réclamé que des linguistes
oui,
interviennent, qu'il fallait leur caution, donc moi je l'attends. Hein,
exactement.
Mais oui, j'attends leur le dialogue avec eux.
Alors surtout, dans cette optique, c'est un canular. Bon, alors à ce moment-là, si c'est si facile de fabriquer une langue exempte de mots-objets, faites-en une.
Bah absolument, ah, absolument. Mais on est en train d'essayer de retrouver qu'il y a pu y avoir des phonèmes à l'origine de toutes les langues. Mmh. Mais justement, ils ont tous dégénéré en mots objets. Mmh. C'est pas de chance. Oui, mais bon, le caractère exoplanétaire, on va dire, qui ne peut pas appartenir à l'ensemble de nos langues, est clair, évident. Il y a des...
C'est exotique, définitivement
oui.
Exotique ce truc.
Ah, complètement, complètement. Et puis la cohérence, vous avez dit qu'il y avait à peu près 1350, bon j'en ai à peu près 40 de plus maintenant.
Uh-huh.
Mais il y a aussi presque 400 expressions qui sont des expressions beaucoup plus compliquées qu'un seul mot et où on arrive très très bien à comprendre finalement.
Ce qu'il faut dire au lecteur potentiel, c'est que autant les travaux d'astrophysique et de cosmologie de Jean-Pierre Petit, c'est pas du tout facile à comprendre, autant les travaux de linguistique de Jean-Paul Lyon, on peut rentrer dedans.
Ah oui, c'est
quand on a lu une vingtaine de pages, on s'amuse comme un fou.
Ah oui, oui, tout à fait.
Alors on commence à faire du thème de la version, donc achetez ce livre, lisez-le, vous allez vous amuser, il n'y a rien de plus drôle.
Il est disponible au Forum des Halles à la FNAC.
Ah, oui.
Hein, il suffit de le demander, il y en a, peut-être pas beaucoup, mais il y en a. Il y en a. Alors, de toute façon, s'il en a plus, il s'en reprocurera d'autres.
Exactement.
Non, il n'y a pas de problème. Oui, oui, c'est vraiment très, très étonnant. En tous les cas, il est clair que c'est relativement facile à manier. Bon, peut-être que quand on veut approfondir, c'est compliqué. Mais ça procède vraiment d'une autre logique et ça traduit un état d'esprit et une autre façon de faire fonctionner sa tête.
Il y a des mots dans votre analyse qui sont extraordinaires. Moi, je trouve qu'il y a le mot caméléon.
Ah oui.
Ça, c'est fantastique. Voir comment on arrive à décomposer ce truc-là.
Ah oui. Ah ben, pour le caméléon, en fait, il y a deux vocables. Il y en a un premier qui évoque que cet animal est un animal qui marche par copie. Par copie avec son environnement. Et ensuite, il y a un autre vocable dans l'expression qui explique que il y a des variations en symétrie, des variations de la peau, qui est déclarée comme l'emballage de l'animal. Hein.
Mais ce que raconte Paul Lyon, c'est qu'on comprend une chose, c'est que c'est de la sémantique à l'état pur. C'est-à-dire que le mot décrit ce que c'est. Parce qu'un caméléon, ça veut rien dire. Ça pourrait être un poutachidon ou n'importe quoi. Caméléon, il n'y a pas de découpage. Tandis que là, c'est comme on prend le mot et on le décompose en ce que vous avez appelé des soncepts, hein, c'est-à-dire des petits éléments de sens, des sens élémentaires,
c'est
et on a tout le fonctionnement.
Oui, c'est chaque son, hein, en fait. Bon, les linguistes appellent ça des phonèmes, hein, mais A, E, I, chacun constitue un son.
Ah oui,
et A, ça veut dire des choses qui sont vraies, effectives. O, ça traduit tout ce qui peut être... écrit sous forme d'équation, enfin, je veux dire des choses palpables par exemple. I, ça exprime la différence, l'autre, la variété, tout ce qui sont tout ça, des formes de mots différentes pour nous, variées, pour dire une seule chose, hein. L'idée d'altérité, comment dire.
Ce qu'il faut dire, c'est que ce qu'a fait Paul Lyon, donc il y avait combien, 1800
élémentaires. Oui.
Il y a une espèce d'accolade en face de chaque lettre. Cette lettre, elle peut dire ça, il y a un certain nombre de variantes, comme ça. Puis une fois qu'on a ce dictionnaire avec ces 1800 sept, on s'aventure dans un texte humide, on prend un mot quelconque et on arrive à le traduire.
Absolument, oui, tout à fait.
Et ça, c'est extrêmement gratifiant, quoi.
Jean-Paul Lyon, vous êtes intéressé depuis combien d'années en fait à ce...
Ça fait maintenant bientôt 7 ans en fait. Hein,
et vous avez espéré recevoir vous-même des correspondances, est-ce que ça a fonctionné?
Ah ça non, alors écoutez, espérer recevoir des correspondances, je crois qu'il ne faut pas rêver. La première condition pour qu'il y ait des correspondances, c'est qu'il y en ait sur Terre, et ça, faudra en être sûr. Ils ont expliqué dans des documents qu'ils peuvent voyager pas comme ils veulent. Ils voyagent que quand il se passe des contraction dans l'espace-temps qu'ils appellent eux des oscillations extracosmologiques, mais donc ils ne peuvent voyager que dans ces conditions-là. Donc il se peut très bien que en ce moment ça soit pas bon et qu'il y ait personne. Ils ont expliqué que entre les années 47 et 75, il y a eu un très très gros pli qui a eu beaucoup de voyages et beaucoup de visites sur la Terre. Maintenant, je ne sais pas s'il y en a. Alors, faudrait d'abord qu'il y en ait. En plus, il faudrait qu'ils aient connaissance du livre. Et ça, bon, on s'en occupe, hein.
Mais je voudrais dire à Jean qu'il ne faut pas désespérer. C'est que moi, quand j'ai sorti mon premier livre sur Houmeau, j'étais tellement écœuré de rien avoir reçu que j'ai traité ces gens de tous les noms. J'ai même, je crois, écrit qu'ils me faisaient penser à des Doberman qui connaissaient la mécanique quantique.
Ouais.
Et puis, deux jours après la sortie du livre, j'ai eu une lettre.
Ouais, mais bon, donc il y a ces conditions-là, puis il faudrait ensuite qu'ils aient envie de faire savoir si j'ai raison ou tort. Et ça reste encore une grande question, parce que est-ce qu'ils en ont vraiment envie de... Jean-Pierre tout à l'heure expliquait l'histoire de la désinformation. Ce dossier en est plein partout. Il est fait pour n'être compris que par ceux qui ont vraiment envie de le comprendre.
Ah ouais, s'accrocher.
Et donc, il y a de la désinformation partout, dans tous les coins, et ils n'ont peut-être, j'imagine, qu'ils n'ont peut-être pas envie, tout simplement, de manifester quelque chose, ni pour ni contre, qui serait une confirmation de leur existence.
Mais il y a une chose, que quand on prend l'exemple d'un type comme Pollion, il travaille X années sur ce truc-là, il arrive à des résultats. Il est impossible de lui prouver que ce matériel n'est pas ou est extraterrestre, ils s'en foutent. Hein, vous vous en foutez.
Ah oui, complètement.
Ça fonctionne. C'est extrêmement original, c'est extrêmement exotique, fonctionnel et intéressant.
Tout à fait, d'ailleurs, je ne suis pas...
Il n'a pas prise sur un domaine qui peut s'en détourner.
Absolument, parce que je veux dire que quand j'ai fait ça, extraterrestre ou pas, j'en ai rien à faire.
Oui.
C'était passionnant en soi, à l'intérieur. Et puis bon, il se trouve que la conclusion, c'est ça, mais bon, après tout, blanc, noir, ça pourrait être un génie, je dis pas un génie terrestre, je pense pas, parce qu'il y a trop de choses dans ce dossier qui font que...
Justement, Jean-Paul Lyon, supposons qu'une agence américaine,
ouais,
ou le Pentagone, ait monté un laboratoire de désinformation, un laboratoire de langue,
ouais,
et mis autour d'une table un certain nombre de spécialistes avec pour mission d'inventer un langage, de concevoir un langage, et une pensée différente. Est-ce que ça reste du domaine possible?
Ben, je vais vous dire, si c'était possible et si c'est possible, s'ils s'en sont pas déjà servis, ils ont tort.
Ben oui.
Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ils ont choisi 35 Espagnols de bas niveau ou de niveau moyen. Mmh. Et quelques personnes dans d'autres pays. Hein, je suis en train d'essayer de rassembler quelques noms. Mais ils ont choisi ces quelques personnes pour faire connaître dans des documents un moyen de penser et de parler dont ils ne disent rien. Il m'a fallu 5000 heures pour comprendre. Alors, pendant 35 ans, voilà, les gens ont eu des paplards sans rien pouvoir en faire. Ça servait à quoi de mettre un vrai langage dans une désinformation de service secret? Ça tient pas debout, ça.
Non, c'est votre bout.
Ça tient pas debout. Hein, il faut voir les choses sur un angle pratique. Les militaires, quand ils désinforment, ou les services secrets, quand ils désinforment, c'est pour avoir des résultats.
Et là, je voudrais faire une remarque, parce que il y a une constance dans ce dossier, c'est l'allergie violente des ufologues contre ce dossier. Il faudrait se poser la question, pourquoi les ufologues sont-ils si réactifs, pourquoi est-ce qu'ils réagissent si négativement à un dossier de ce genre?
À mon avis, c'est parce que ça les dépasse, c'est tout simplement parce qu'ils comprennent pas quand ils essayent de lire. La troisième page, c'est déjà foutu. Hein.
Ouais. Moi, j'ai pensé que ça pouvait être l'explication.
Ben, moi je le comprends comme ça. C'est vrai qu'il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher pour trouver et comprendre exactement ce qu'il y a dedans. Parce que il faut trier la désinformation et l'information. Et l'information, on ne la voit que par cohérence, par contrôle entre différents documents. Enfin, il y a du boulot, hein.
Est-ce que vous vous êtes amusé à verbaliser certains mots? Ça donnerait quoi?
À faire des essais.
De voix.
Je vais vous dire, pour donner ce que ça peut donner, je me suis posé une question à propos du film de La Guerre des Étoiles. Il y a un personnage qui doit s'appeler Chewbacca. Mmh. Eh bien, ce personnage parle, probablement, les sons qu'il émet sont probablement assez proches de ce que peut être l'humite. Et je me suis demandé si Spielberg et Lucas n'avaient pas eu connaissance, d'une façon ou d'une autre, du dossier. Parce que c'est bon, c'est ça ressemble à ça, hein, quand on essaye de verbaliser, parce que c'est plein de A, E, I, O, U, W, de temps en temps un M, un N, un T, enfin bon, c'est pas facile, hein.
Mais ce que les linguistes n'arrivent pas à comprendre, et qu'on ne comprend pas non plus, sauf quand on commence à rentrer dans votre travail, c'est qu'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de complément, il n'y a pas de complément d'objet direct, c'est la structure n'est pas du tout la même.
Ah oui, pas du tout, parce que, oui, c'est vrai, mais ça, oui, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec cette personne linguiste. Ils expriment les choses, les réalités fonctionnelles. Ouais. Et donc, sujet ou pas sujet, ben, en fait, la fonction, d'ailleurs, un vocable en général ne désigne pas l'équivalent de ce qu'on appelle un mot. C'est un mot avec un contexte, avec des tas de choses, disons, il est décrit par ses fonctionnalités dans l'ensemble. Et on trouvera un bout du verbe et du sujet dans le même mot.
Mmh.
Tout à fait, hein, oui. Enfin, dans le même, oui, on va dire mot, quoi. Hein.
Jean-Pierre Petit se pose la question très récemment sur son site internet, la question de la découpe. Il donne un exemple.
Oui, des vocables.
Oui.
Oui. Oui, c'est vrai. Alors ça, c'est une question qui est restée en l'air dans mon travail. Mmh. Cette découpe aujourd'hui, c'est une découpe qui, à mon avis, est purement formelle pour nous aider à comprendre. Et nous aider à comprendre. Hein.
Ben alors, parce que tout trouver d'un coup, de toute façon. Hein.
Non, ben, si on avait eu des paquets de 25 ou 30 lettres bout à bout, il n'y avait pas les moyens. Il fallait que les unités soient pas trop longues.
Mmh.
Et l'unité moyenne des 1350 vocables, c'est seulement 6 phonèmes.
Mmh.
Hein. Donc, ça reste accessible. Et moi, je pense que c'est ça, cette découpe. Seulement, eux, ils ont probablement des façons de couper le flot, parce qu'il faut respirer, il faut reprendre sa respiration. Mais il y a peut-être des coupures. Je pense que celles que nous avons, nous, sont pour l'instant artificielles, destinées à nous aider à trouver, quoi.
En tout cas, il y a une chose, c'est que c'est sûr, c'est 5 ans de travail, c'est 5000 heures, mais vous avez quand même été sacrément vite, même par rapport à Jean-Paul Lyon, même par rapport à la pierre de Rosette.
Ah oui, enfin oui, tout dans certaines limites, parce qu'en réalité, ça a été encore plus vite que ça. Hein. Les 5 ans incluent toute la mise en place informatique de l'outil, parce que je vais vous dire, l'outil informatique qui m'a servi, c'est quand même pas un petit... Pas la machine, hein, mais les logiciels. Hein. Bon, c'est quand même assez conséquent, donc il a fallu le penser, le réaliser. Et puis ensuite, il y a eu aussi toute la phase de rédaction. La phase de découverte proprement dite, elle a duré, l'équivalent de 2 ans à peu près, 2 ans et demi.
Très court.
Oui, assez court, oui, oui.
Mais oui, bon, moi je vois ça par rapport à des gens que je connais, qui ont lu le bouquin, etc. Ça remue quand même pas mal les gens. Parce que ça peut entraîner, sinon leur conviction, du moins leur intérêt.
J'ai reçu par le net beaucoup de gens qui m'ont qui m'ont dit leur accord, leur compréhension du système et de la démarche et de la façon de travailler. A priori, non, ça doit pas décourager, parce qu'il y a plein de perles, hein, là-dedans, plein de perles. Hein.
Oui, Jean-Pierre écrit aussi que, d'ailleurs dans le même article daté de la semaine dernière sur le net, sur son site jppetit.com, que c'est une véritable invitation à tout lecteur de contribuer à décoder.
Ah oui, oui.
Ah ben absolument. Absolument.
Un club, venez nous rejoindre et amusez-vous.
Absolument, absolument, parce que de toute façon, tous les points de vue sont bons. Tous les points de vue sont bons à prendre, à examiner. Bon, alors tout le monde n'a pas la bonne idée au bon moment, mais ça fait rien, parce que plus il y a de monde pour apporter des idées, plus on fera sortir des choses. Alors si quelqu'un peut avoir un esprit un peu spécial, comme par exemple, enfin spécialisé, pardon, hein, comme en biologie, comme il disait tout à l'heure à propos de... des connaissances biologiques. Il y a un truc qui m'a frappé dans ces documents. Bon, moi, j'ai fait un petit peu d'études scientifiques aussi, hein. Mais, je peux pas trop en dire. Mais la biologie, c'est pas mon rayon, mais je m'y suis intéressé. Et dans les textes, il y avait au milieu des constituants de l'ADN, sur le même plan logique, le mot histone.
Mmh.
Or, on est en train de découvrir qu'il y a aussi un code dans les histones et que le code de l'ADN ne fait pas tout. Mais ce document, il date de 1967.
Eh oui, bien sûr.
Hein? C'est-à-dire, c'était il y a 30 ans en plus. Alors, ça aussi, c'est des petites choses. Puis toutes les petites choses, les unes au bout des autres, ça fait quand même.
Mais alors, pourquoi préserver votre anonymat, Jean-Paul?
Pourquoi? Ah Écoutez, oui, par rapport, je vais dire, à ma vie privée et professionnelle.
Il a parfaitement raison.
Mais il est clair. En fait, je vais vous dire, mon challenge est le suivant. Si mon travail est pris au sérieux et considéré, j'ai décidé de lever l'anonymat, parce que ce n'y aura plus de raison.
Ben alors, il faut acheter le bouquin.
Mais à partir du moment où, ça n'intéresse personne, il n'y a pas de raison. Je reste lambda dans mon coin, et puis c'est fini.
Comment on se procure ce travail?
Eh bien, on peut alors soit le commander aux éditions Aldan, et ça se fait sur le net, hein. L'adresse c'est Aldan at voyons, c'est, non c'est, oh je sais plus,
ah.
piégé, je sais plus, c'est at Worldline, mais je l'ai pas sous les yeux.
Je dois l'avoir pas loin.
Ouais. Aldan, bon, de toute façon,
Aldane.
Oui, Aldane. Vous le de toute façon, non, parce que celle que j'ai sous les yeux, c'en est une autre. Mais vous pouvez toujours essayer de les joindre quand même par là, hein. Aldan at des planètes. Tout collé. Mais planète, planet.ch.
J'ai vu comment marchent les scientifiques, il n'y a pas que moi.
Oui. Non, mais oui, parce que bon, ça je sais le retrouver dans ma machine, mais je le sais pas par cœur.
Ah ben, c'est ça.
Et puis, sinon, mais je vous dis, hein, pour les Parisiens, vous allez à la Fnac Forum des Halles, et là vous le trouvez. Et ça s'appelle Humo de vrais extraterrestres. Point d'exclamation.
Et non pas point d'interrogation.
Et non pas point d'interrogation.
Donc c'est une preuve par l'étude du langage.
Écoutez, aujourd'hui, je considère que c'est une preuve pour plusieurs raisons et qui sont faites dans la décomposition du langage et la comparaison de ce langage avec notre façon de penser, hein, notre façon de raisonner, de construire. Je fais référence, et quand je dis je fais référence, j'ai lu Bertrand Russell, qui est un des papes de la logique des langages, et son élève Ludwig Wittgenstein, et avec leurs travaux, je peux établir qu'il y a au moins 5 critères pour lesquels cette langue ne rentre pas dans les classifications des langues terrestres.
Mmh.
Alors, plus la pensée fonctionnelle qui est derrière, et qu'on sent très très bien, parce qu'il n'y a pas de langage, enfin il n'y a pas de pensée sans langage et vice-versa, pour moi, c'est une preuve par la langue. Et qu'on m'apporte, moi, une langue équivalente est faite sur Terre.
Alors, Jean-Paul Lyon, je vais apporter ma petite contribution. Voilà, c'est édition, au pluriel, Aldan, en un seul mot.
Ouais.
Édition Aldan, at worldonline.ch.
Voilà.
Worldonline, bien sûr, en un seul mot également.
Ouais, voilà.
Édition Aldan, at worldonline.ch. Est-ce que vous souhaitez donner aussi votre... site ou votre
email? Moi j'ai pas de site, mais on peut m'écrire et c'est J Paulion, donc tout collé,
P-O-2-L-I-O-N
at AOL.com.
Facile. Et vous répondez à tout le monde?
Ah oui, je fais l'effort.
Et moi c'est www.jp-petit.com.
Ouais.
Tu es sûr du trait d'union?
Oui. Ah oui, je confirme. Je confirme, moi.
Mm-hmm. C'est
très bien. Oui. Par erreur, j'ai annoncé jp.petit tout
non,
à l'heure. C'est jp-petit.
Tiret, oui. Voilà.
Comme ça, on trouve.
Oui, voilà.
Et ensuite, l'email est révélé, c'est science at...
Mais moi, je trouve que la position de Paulion, pas dire qu'elle soit courageuse, je trouve que ça ne peut pas dire grand-chose. Mais je pense qu'on arrive quand même à une époque où il faut commencer... Je dirais pas à s'engager, mais à donner un petit peu des convictions. On est face à un phénomène ovni qui dure depuis 50 ans. Ouais. Il y a des évidences de tous les côtés. C'est pas la peine d'avoir de la pudeur sur une conviction. Moi, je suis convaincu que c'est un phénomène qui correspond à des visites d'extraterrestres. Point à la ligne, c'est tout. Et je suis scientifique. Mais je suis convaincu aussi que la Terre est ronde. Je suis convaincu que la Lune est à 400 000 km de la Terre ou à 300 000. Mmh. Il y a des choses pour lesquelles on a des convictions.
Tout à fait. Hein. Ben alors là, moi, je suis 100% sur la même ligne. Hein.
Oui, parce que je pense que cette conviction, ça ne correspond pas à une croyance de type magazine. Simplement, la situation de la Terre actuellement devient gravissime et le phénomène OVNI pourrait s'inscrire dans notre histoire comme une nécessité parce que ça va très, très, très mal. C'est tout.
Oui. Et on peut même aller plus loin. et attribue à d'autres manifestations encore incomprises une volonté de manifestation autre qu'OVNI directement pour secouer le système, hein, parce que à partir du moment où il a décidé de se cacher la vérité et de la cacher à tout le monde, il y en a peut-être d'autres qui ont envie que ça se sache quand même.
Mais vous savez, quand on prend l'histoire du phénomène OVNI dans le monde et en particulier en France, la France aussi a pratiqué la désinformation.
Oui.
Le GEPAN, le CEPRA ont été des structures de désinformation.
Bah oui.
On peut reprendre des exemples là-dessus parce qu'ils sont innombrables.
Il y en a dans le monde.
Une époque où les frères Bogdanov avaient fait une émission avec Velasco à la télévision et où il était dit que il y avait un très faible pourcentage de cas qui n'étaient pas expliqués, mais qu'un jour tout ça finirait par être expliqué. Enfin, c'était très négatif dans ce genre de choses.
Ouais.
Donc on a déversé cette négativité sur le public pendant des années, ce qui fait que pour les journalistes, pour les intellectuels, pour les scientifiques, le sujet OVNI, c'est du pipeau. C'est vissé avec une vis en inox dans la tête des gens. Et maintenant que on pense qu'il faut inverser la vapeur, ça correspond au rapport Cometa de 99, ça n'est plus possible. Lorsque des gens se réunissent pour dire, vous savez, en fait, c'est vachement important, personne ne les croit plus. La presse est complètement dressée à discréditer le sujet OVNI complètement. C'est plus la peine d'essayer de le remettre sur ses rails.
Oui, tout à fait, hein? Mais bon, c'est tout ça reste encore beaucoup d'actualité, hein. Je ne citerai rien et pas de nom, mais un article de 2 pages de présentation de mon travail et de dans un environnement OVNI, etc., a été refusé par la direction d'un journal alors que le rédacteur en chef le proposait.
Ah ouais, par exemple.
Donc,
je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec le sujet OVNI, mais qui est assez intéressant. Ça se situe dans les années 80, et dans les années 80, j'avais des tas de choses à raconter. C'était avant la parution du livre Les Enfants du Diable. Mon ami Alexandrov venait de disparaître à Madrid, on a su après qu'il avait été assassiné. Donc j'essayais de faire parler de ça dans les médias, je ne savais pas quoi faire. À l'époque, il avait disparu parce qu'il avait inventé un concept dont on ne voulait pas entendre parler à l'époque, qui était le concept d'hiver nucléaire, hein, dans les années 82, ou choses comme ça. À l'époque, personne ne savait ce que c'était. Maintenant, tout le monde en parle. Bon, mais à l'époque, c'était pas bien vu. Eh bien, je me suis adressé à des tas de journaux, Le Point, Le Figaro, Le Monde. J'ai fait le tour de tous les journaux possibles imaginables. Réponse négative. Les gens s'en foutaient. Et puis à un moment, il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que tu as essayé l'humanité? Ah, je dis non, j'avoue que j'ai pas pensé à l'humanité. Ben, essaye l'UMA. Alors j'ai créé l'UMA et je me retrouve avec une rencontre avec le rédacteur en chef qui était Claude Cabanne, qui me reçoit très très gentiment. Et il m'écoute parler, je lui raconte toutes les abominations qu'on peut trouver dans la guerre nucléaire, l'hiver nucléaire, etc., etc. Et à ce moment-là, il a cette remarque, il dit « Oui, ce serait pas mal pour l'UMA dimanche, pour nos pages magazines ». Et à ce moment-là, je lui ai dit, Monsieur Cabanne, je reprends votre phrase. Écoutez ce que vous venez de dire. Je viens de vous parler des conséquences abominables de la guerre nucléaire et vous étiquetez ça comme quelque chose qui relève du magazine. Et il a été frappé, parce que c'était un type honnête. Hein.
Ouais.
Claude Cabanne a été frappé. Il m'a dit, non, d'une pie, vous avez raison. C'est incroyable. Vous voyez la réaction? Donc le sujet OVNI, c'est du magazine. Ça n'est pas un sujet scientifique. Vous ne verrez jamais ça dans le monde des sciences. Et le fait d'avoir réussi à passer, à l'époque je crois que c'était 4 double pages dans l'UMA, où j'ai pu m'exprimer, on n'a pas changé une ligne, hein. C'est pas le fait que j'ai eu un engagement politique, ces gens-là ont été honnêtes. Je le dis, je le reconnais. Et ça s'est su grâce à ça. Sinon ça ne se serait su nulle part. Je veux dire que la liberté de la presse et l'authenticité de la presse, moi j'y crois pas, hein.
Ah bah oui, non bah ça c'est
ah
vrai.
Non, ça c'est...
Mais on peut même remonter sur des coups un peu plus tordus, parce que vous avez cité tout à l'heure le GEPAN avant d'être le CEPRA, mais pour revenir au dossier humour en même temps, avant de devenir patron du GEPAN, Claude Poher a fait toute une étude avec une équipe et des moyens informatiques des photographies qui avaient été prises en Espagne à San José de Valderas. Eh bien, ils ont fait une étude technique propre, net, et ils ont pondu, et lui, il a pondu des conclusions qui ne sont pas en liaison scientifique avec son étude technique. Il a fait une conclusion faite pour être dans le sens qu'on lui avait imposé.
C'est une dépendance du CNES, c'est ça?
Ça dépendait du CNES, oui, c'est ça. Oui, oui. Mais le CEPRA est encore dépendant du CNES, je crois, maintenant, mais peut-être plus pour très longtemps. Mais en fait, tous les gens qui se sont un tout petit peu intéressés au dossier Humo sont tombés sur ces phrases presque définitives de Claude Poher, disant à la suite de mon analyse, c'est des photos truquées, etc. Eh bien, les gens ont dit, bon, bah, c'est fini, terminé, et puis voilà. Alors qu'en fait, ce sont des conclusions de désinformation. Je le montre dans mon livre.
Ah oui, hein. c'est bon.
Je le montre dans mon livre, il y a des incohérences claires et puis techniques.
Moi, je vais rappeler un épisode de désinformation. Parce que c'est quand même des choses qu'il faut dire. Vous vous rappelez qu'à un moment, il y a eu la vague belge. Puis,
oui.
Suite à la vague belge, il y a eu le F-117, l'avion sportif.
Oui.
Science et Vie avait publié sur sa couverture la photo du F-117 avec comme manchette « L'OVNI, c'est lui ».
Oui, oui, oui.
Donc on a essayé de dégonfler cette affaire-là.
Parce
qu'il s'agissait
de véritable
guerre à l'époque entre
information
et désinformation. Moi, je suis passé chez Poivre d'Arbor à la télévision, j'avais fabriqué une maquette du F-117 là, et j'ai expliqué qu'on commençait à avoir des données techniques sur ce truc-là, et que ça avait une vitesse d'atterrissage, je crois, qui était de 280 km/h. Et à la vitesse à laquelle les témoins avaient dit avoir vu cet engin-là voler, ça pouvait pas voler à une vitesse pareille.
Bien sûr.
C'était comme d'essayer de faire planer un fer à repasser, quoi.
Oui, oui,
donc,
oui.
Y a eu cette espèce de guerre entre information et désinformation, et puis tout à coup, on a eu un truc fantastique.